Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, je vous parle du film Les 7 de Chicago de Aaron Sorkin.
At the defense table,
Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Froines, Tom Hayden and Bobby Seale.
These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot.
I call this portion of the trial with friends like these.
My trial's begun without my lawyer.
The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you.
The riots were started by the Chicago Police Department.
Sustained.
Nobody objected.
Donc Les 7 de Chicago, c'est un film écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, pour ceux qui veulent savoir à peu près qui c'est le scénariste de The Social Network de David Fincher et de Steve Jobs de Danny Boyle. Il avait aussi réalisé son premier long métrage en 2017 qui en VO s'appelle The Molly's Game ou en VF Le Grand Jeu. Voilà. Donc il revient cette année avec son deuxième long en tant que réalisateur qui est donc Les 7 de Chicago qui est sorti directement sur Netflix. Alors il faut savoir que c'est un projet qui date de 2007, puisque c'est à cette date que Aaron Sorkin a écrit le script, et de base le film devait être réalisé par Steven Spielberg, et les acteurs qui étaient dans le film, il y avait Sacha Baron Cohen qui lui est resté dans la distribution finale, il y avait Will Smith qui devait incarner Bobby Seale, et il y avait Heath Ledger qui devait incarner Tom Hayden. Bon, malheureusement, Heath Ledger est décédé entre temps. Alors il faut savoir que c'est pas un film qui a été produit par Netflix, comme beaucoup de films Netflix Originals. C'est un film qui a été racheté par Netflix. Netflix a racheté les droits de diffusion. Et c'est pour ça qu'ils l'ont sur leur plateforme. Et là, du coup, c'est à cause de la pandémie. Ils se sont dit que ça ferait pas, vraisemblablement, pas assez d'entrées. Donc, ils ont décidé, c'est Paramount qui avait les droits. Et donc, ils ont décidé de le revendre à Netflix pour que le film ait beaucoup de visibilité. Et franchement, c'est pas si mal parce que je pense que le film aurait clairement pas eu autant de visibilité en salle. Je pense que pour le coup, là, c'est un film où. Même s'il a pas forcément plu en spectateur sur Allociné, il a une note de 4,1 sur 5, donc c'est très bon. Mais ça peut paraître compliqué à regarder du Aaron Sorkin parce que, encore là, il y a de l'action. Mais par exemple, vous regardez The Social Network, il y a très très peu d'action et ça peut être long, mais c'est un film qui repose essentiellement sur du dialogue et c'est la spécialité d'Aaron Sorkin en fait. Aaron Sorkin, avant d'être réalisateur, il est avant tout scénariste et son point fort, c'est les dialogues. Donc justement, un film de procès, c'est un peu son terrain de jeu, voilà, ce serait sa spécialité. Et je vais commencer par ça. Le scénario, je l'ai trouvé absolument génial. C'est Aaron Sorkin, voilà. Mais c'est un des gros points forts, même le plus gros point fort du film, le scénario. J'avais beaucoup de mal, je me suis dit, avec les... Enfin, la fin de l'année qui arrive, je me suis dit, mais qui pourrait gagner l'Oscar du meilleur scénario ? Je pense que... Alors, je sais pas si ce sera considéré comme un scénario original, du coup, parce que, c'est inspiré d'histoires vraies. Je pense quand même, parce que le... C'est-à-dire qu'il reprend des événements qui sont arrivés dans la vraie vie, mais il ne s'inspire pas d'un livre ou d'un film ou de quelque chose, donc je pense que ce sera comptabilisé en tant que scénario original. Et pour moi... Pour l'instant, de ce que j'ai vu cette année, je pense que Aaron Sorkin et ce film, c'est à lui que je donnerai l'Oscar, voilà, de ce que j'ai vu cette année. Alors oui, c'est vrai que je parle du scénario, je n'ai même pas raconté de quoi parle le film. En 1868, dans la ville de Chicago, il y a une convention démocrate, aura pour but de désigner le candidat qui représentera les démocrates à l'élection présidentielle. Et donc, il y a des manifestations en parallèle à ça pour stopper la guerre au Vietnam. Du coup, il y a beaucoup de tensions, il y a une vraie, vraie tension. Et il y a plusieurs personnes. On a Abby Hoffman, on a Jerry Rubin, on a David Dellinger, on a Tom Hayden, on a Rennie Davis, on a, je vais écorcher ce nom, John Froines, et on a Lee Weiner. Voilà. C'est un peu, des gens qui viennent... de groupes différents, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent d'une association d'étudiants démocrates, il y en a qui viennent d'un groupe hippie, il y a aussi, que j'ai oublié dans la liste, il y a Bobby Seale, mais qui lui est jugé à part, et bon, je vais expliquer pourquoi, mais qui est un des fondateurs des Black Panthers, qui est jugé à part parce que en fait, on comprend qu'il est dans ce procès uniquement parce qu'il est noir, voilà, il est resté, il a rien à voir avec les émeutes, il est resté 4 heures à Chicago et il se retrouve dans le procès. En regardant le film, clairement, c'est un peu le film qui va aussi critiquer la politique de Trump, c'est pas très républicain friendly quoi. Et donc c'est 7 hommes, donc les 7 de Chicago, donc 8 plus Bobby Seale, vont être jugés pour avoir provoqué des émeutes. On comprend au début du film que ce procès est un peu bidon parce que c'est le ministre actuel de la justice qui a lancé les poursuites, alors que son prédécesseur Ramsey Clark, qui est joué par Michael Keaton, avait conclu... je ne dirai pas ça parce que ça va spoiler. Mais en gros, n'avait pas engagé de poursuite. Et on comprend qu'il fait ça un peu pour se venger parce que parce qu'il l'a humilié. En fait, il a vraiment présenté... En fait, pour que quand il y a une... C'est ce qui est expliqué dans la toute première scène. Quand il y a un changement de président, comment expliquer ? Quand il y a un changement de président, les ministres actuels démissionnent pour ne pas que le président ait à les virer. Et du coup, Ramsey Clark a démissionné une heure avant l'investiture du nouveau président. Et donc du coup, le ministre, j'ai oublié son nom, mais le ministre qui était là, qui était en place dans le nouveau gouvernement de Nixon, a pris ça pour une provocation. Et du coup, c'est un peu une vengeance, quoi. En fait, c'est globalement. J'ai dit qu'on retrouvait Michael Keaton. Il a vraiment un petit rôle. Il a pas vraiment un gros rôle. Mais dans les 7, on retrouve Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Bobby Seale. On retrouve, comme je l'ai dit, je crois, Sacha Baron Cohen dans le rôle de Abby Hoffman. Jeremy Strong dans le rôle de Jerry Rubin. On retrouve Eddie Redmayne dans le rôle de Tom Hayden. Alex Sharp dans le rôle de Rennie Davis. Noah Robbins dans le rôle de Lee Winer. Daniel Flaherty dans le rôle de John Front. J'arrive toujours pas à prononcer ce nom, je suis désolé. John Carroll Lynch dans le rôle de David Dellinger. Pour les 7. On retrouve aussi Joseph Gordon-Levitt dans le rôle du procureur adjoint. Donc de l'autre côté, du côté de l'accusation. Ça joue extrêmement bien. Je pense que, surtout en termes de second rôle, l'avocat William Kunstler qui est joué par Mark Rylance, qui joue magnifiquement bien, qui pour lui, je pense, pour le coup, peut choper un Oscar aussi. Ce film en termes d'acting sera super intéressant à suivre dans les cérémonies parce que ça joue vraiment bien. Ça joue vraiment bien, c'est vachement convaincant, je trouve. Il n'y en a pas un qui est en dessous du lot, je trouve ça vachement convaincant. En termes de reproduction des costumes, de refaire des costumes d'époque, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça vachement bien. Les décors et tout ça, j'ai trouvé ça aussi cool. Là-dessus, en termes de reproduction des années 60, 70, il n'y a rien à dire. La photographie, franchement, est plutôt agréable. Je m'attendais pas aussi bien, à vrai dire. Mais franchement, c'est plutôt cool. J'ai bien apprécié. Ça a été fait par Fidon Papa Michael. C'est son nom de famille, je n'invente rien. Qui avait déjà officié sur Ford versus Ferrari ou Le Mans 66 dans le titre français. Donc c'est le moment où je vais nuancer mon propos parce que je vais parler de ce qui m'a absolument déplu dans les scènes de Chicago. C'est la réalisation et la mise en scène. Quand le film est sorti, j'ai lu sur Letterboxd. Pour faire court, un équivalent d'Halluciné. Comment un si bon scénariste comme Aaron Sorkin peut-il écrire pour un si mauvais réalisateur comme Aaron Sorkin ? Et en fait, je pense que c'est un peu la tendance générale qui s'est dégagée du film, et je ne vais pas déroger à la règle. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, je me suis dit, est-ce qu'il sait faire autre chose que du chant contre chant ? Il y a très peu... Grande majorité du film, c'est du chant contre chant. C'est vraiment... c'est plat. En termes de réalisation, c'est vraiment plat. il y a deux trois choses intéressantes. Il y a deux trois choses intéressantes quand il utilise le plan séquence, quand il change enfin, quand il arrête de faire du champ contre champ, ça devient intéressant. Il y a aussi, il mêle parfois au milieu des scènes qu'il a reproduites, il mêle des vraies images d'archives. Ça, c'est super intéressant en termes de mise en scène, je trouve ça bien amené. Mais sur les deux heures du film, il doit y avoir 90%, c'est que du champ contre champ. Donc, c'est assez embêtant, je trouve. C'est vraiment assez embêtant. Bon, après, il y a quelque chose que je peux pas lui retirer, c'est que son cadre est bien travaillé. Je trouve qu'il y a vraiment un vrai travail sur le cadre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en trop. Vraiment, il y a un cadre très propre, très net. Mais c'est du champ contre champ pendant quasiment deux heures. Je me suis très vite... ça m'a très vite posé problème, cette réalisation. Franchement, si le scénario n'était pas aussi bon, si l'histoire ne m'avait pas autant emporté, je pense que je me serais fait sacrément chier. Voilà, pour être honnête. Parce que c'est techniquement, en termes de mise en scène et de réal, c'est faible. C'est faible. Je pense que Aaron Sorkin a... Voilà, ça peut être prometteur, parce que lui, il écrit des scénarios, mais absolument fous. Mais en termes de réalisation, il a énormément de progrès à faire. Et je pense que quand il fera ses progrès et quand il apportera un peu plus de créativité dans sa mise en scène, je pense que ça va vraiment donner quelque chose d'incroyable. On comprend tout de suite, je sais pas si il y a eu clairement une interprétation comme ça, apparemment oui, mais on comprend tout de suite que le procès est truqué, enfin en tout cas pour Sorkin. Il y a un moment où il y a le personnage de Sacha Baron Cohen qui dit... mais c'est un putain de procès politique, et t'as l'avocat qui fait « les procès politiques, ça n'existe pas ». Et en fait, tout au long du film, tu te rends compte que si, c'est un procès politique. Voilà. Il y a aussi... le juge est infect. Le juge est infect. Il fait que d'avantager l'accusation. Il y a un moment où il y a l'ancien ministre de la justice qui vient à la barre. Donc voilà, c'est quand même un événement incroyable, l'ancien ministre de la justice qui vient à la barre. Et les jurés n'assistent même pas à l'interrogatoire, alors qu'ils donnent un élément qui peut totalement innocenter les sept. Je révélerai pas quoi, mais ils donnent un élément qui peut totalement innocenter les sept. Et les jurés ne sont pas présents. Les jurés ne sont pas présents. Et ils n'ont même pas été informés que l'ancien ministre de la justice est venu témoigner. C'est vraiment hallucinant. Et enfin bref. Et d'ailleurs, il y a, vous savez, à la fin des biopics, il y a souvent écrit en lettres des choses, des informations sur ce qui se sont devenus les gens qu'on a vus dans le biopic. Et dans les sets de Chicago, il y a écrit que 78% des avocats de Chicago ont reconnu que le juge n'était pas compétent, que le juge avait livré un mauvais procès. Voilà. Il y a bien évidemment toute une dimension politique, puisque on sent le racisme, quoi. Puisque il y a toute une histoire, avec les Black Panthers. Alors, les Black Panthers, pour ceux qui ne savent pas, si je devrais faire simple, je dirais un peu que c'est le contraire du Ku Klux Klan. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui consiste à donner plus de droits aux Afro-Américains. Et d'ailleurs, le héros Marvel Black Panther tient son nom de là. À la base, il s'appelait Black Leopard, et c'est grâce aux Black Panthers qu'il a pris son nom. Donc voilà. Mais du coup, oui, Bobby Seale, qui est un des cofondateurs des Black Panthers, et qui est là juste parce qu'il est noir, clairement, il a rien à foutre dans le procès. Il est accusé à tort d'avoir tué un policier. Et il y a une grosse injustice avec lui, qui est que, en gros, quand le procès commence, son avocat est à l'hôpital et il commence le procès sans avocat. Donc, au début, il demande « Mais pourquoi mon avocat n'est pas là ? Pourquoi mon procès commence sans mon avocat alors que j'ai demandé à ce qu'on décale le procès ?» Et donc, il va finir par demander à se représenter lui-même, chose qui va aussi être lui refusée alors que c'est un droit constitutionnel. Donc, voilà. Et il finira avec tellement de mentions d'outrage qu'il va finir menotté et bâillonné, littéralement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, le moment où il est bâillonné, ça dure vraiment pas beaucoup de temps. Ça dure vraiment genre même pas 10 minutes. Après, les avocats parlent avec le juge ça se termine. Sauf que j'ai lu que dans la vraie vie, il avait été bâillonné comme ça pendant 7 jours. 7 jours de procès, menotté et bâillonné. Voilà, c'est absolument scandaleux, c'est absolument énorme. Et du coup, bah, on espère que la justice a évolué, quoi. Parce que c'est pas acceptable, tout simplement. Donc voilà, c'est un film qui manque cruellement d'inventivité dans sa mise en scène, qui a une réalisation assez plate, mais qui, en raison d'un scénario absolument incroyable et hyper prenant, et j'étais vraiment à fond dedans. Voilà, même si pendant tout le film j'étais en mode hein, ça me gêne un peu ce chant contre chant pendant 2 heures. Mais bref, voilà, je pense que ce film, si vous voulez mon avis, mérite une chance. Et du coup, je vous incite, je vous encourage à le voir. De toute façon, c'est sur Netflix, hein, c'est simple à voir, voilà. Et à vous faire votre propre avis. Et pour ma part, je vous dis à une prochaine fois pour parler d'un nouveau film.